VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les Sénégalais élisent dimanche leurs députés, un scrutin très attendu en vue de la présidentielle de 2019 avec comme tête de liste de l'opposition au chef de l'État Macky Sall, son prédécesseur Abdoulaye Wade et le maire de Dakar Ali Fassal en détention préventive. On écoute notre reportage.
Personne ne peut vous dire aujourd'hui qui va s'en sortir. Les Sénégalais, ils sont très versatiles. Personne ne connaît. C'est au soir du 30 juillet à 18h qu'on saura qui va sortir vainqueur de cette élection législative. Maintenant, il y a des coalitions qui sont supposées être dominantes. C'est la coalition au pouvoir de Boubacar, c'est la coalition incarnée par l'ancien président Abdoulaye Wade, coalition Manco Tahaou gagnante. C'est la coalition de Khalifa Sall. Il y a aussi des partis, quelque part, religieux, dont on ne parle pas souvent. C'est le PUR, qui est un parti qui ressemble à Moussa Chédid au Sénégal, avec Sylvain Doukara aussi avec son PVD. C'est des partis qui ont, en général, un électorat très fixe qui vote. Mais est-ce que cet électorat le permettra de peser sur la balance? On attendra de voir. Mais les partis n'ont rien dit cela. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement qui va s'en sortir. Mais il y a trois coalitions autour desquelles peut-être les résultats vont se faire. C'est la coalition pour le pouvoir de Boubacar, c'est la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade, c'est la coalition incarnée par Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est en prison pour détourner
le
fond.
Comment les Sénégalais perçoivent le retour de l'ancien président Wade à 91 ans?
Mais Abdoulaye Wade, les Sénégalais le savent bien, c'est le papa qui ne sait pas pour lui, il se bat pour son fils Kari Wade. Abdoulaye Wade n'a jamais accepté que son fils Kari Wade, qu'il avait voulu nous imposer en 2012 comme dauphin, qui a été cherché, qui a été mis en prison pour détournement d'année, qui avait la réchappée de Ben Malaki, qui est candidat du Parti démocratique sénégalais, il est revenu, c'est Abdoulaye Wade, c'est un candidat par procuration pour son fils. À son âge, il a déjà dit, il ne cherche pas à l'Assemblée nationale, il l'a clairement dit, il ne cherche pas à devenir président de la République, il cherche quoi? Fondamentalement, son fils Karim est candidat pour la prochaine présidentielle. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font qu'il ne peut pas se présenter. Un, Karim Wade a été gracié, donc dispensé de peine, mais la peine pécuniaire reste, donc l'argent qui doit l'État du Sénégal reste. Son casier judiciaire est entamé. Abdoulaye Wade voudrait peut-être avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie pour son fils et pour lui permettre d'amener à se présenter en 2012 à la présidentielle. Entre la volonté et le vouloir de Abdoulaye Wade et ce que les Sénégalais vont décider, ben, le 30 au soir, on saura ce qui va se passer.
Alassane Samba Diop, directeur de radio RFM à Dakar, joint par Ekia Badou. En RDC, journaliste en danger, le gouvernement a interdit à la presse de faire des reportages dans certains lieux et cela a été dénoncé par Reporters en danger en RDC. Eddy Sango.
Le ministre de la Communication, Lambert Mende, rappelle dans un arrêté que des lieux stratégiques sont interdits, des couvertures médiatiques. Les casernes militaires, installations de communication et ambassades ne peuvent être couverts que sur autorisation expresse des responsables de ces lieux. Il restreint aussi les déplacements des médias étrangers en dehors de la capitale ou d'une province à une autre. Pour ce faire, il faut une autorisation préalable. Pour GED, les gouvernements tentent de censurer les journalistes étrangers et restreindre leur liberté de mouvement pour les contrôler et les empêcher de faire leur travail. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est plutôt pour leur offrir des meilleures garanties de sécurité. Deux experts onusiens ont été tués en mars dans les Kassai, théâtre des violences entre les forces de sécurité et une milice locale. L'ONU a trouvé dans la zone une centaine de charniers.
Madame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a révélé hier qu'elle encouragerait son mari, Robert Mugabe, âgé de 93 ans et à la tête du pays depuis 1980, à désigner un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. Anastasie Toudièche.
Grace Mugabe, 52 ans, a déclaré « Je me fâche avec lui, je lui dis toujours, tu as un rôle, tu dois dire qui va prendre ta place quand tu partiras ». La première dame, qui fait partie des favoris pour succéder à son époux, ajoute que la succession de Mugabe ne pourra se faire sans son engagement. Il a son mot à dire en tant que citoyen du pays. Le pays est très divisé sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, qui n'a jamais pris position officiellement sur le sujet. Mais son vice-président Emmerson Mnangagwa est régulièrement cité. La question n'est pas encore d'actualité puisque Robert Mugabe, le plus vieux président en exercice de la planète, a décidé de se représenter aux élections de 2018. Il a même assuré l'an dernier vouloir gouverner jusqu'à ses 100 ans.
Le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine, Lesetja Kangiyago, a estimé aujourd'hui que l'économie du pays devrait renouer avec une croissance positive au deuxième trimestre et sortie ainsi de la récession dans laquelle elle est plongée depuis le début de l'année. L'économie sud-africaine est engluée dans une croissance molle depuis plusieurs années et affiche un taux de chômage record avec 27,7% de la population active sans emploi. Deux agences de notation financière ont également dégradé la note du pays en catégorie spéculative après le limogeage controversé du très respecté ministre des Finances Pravin Gordhan à la fin du mois de mars.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, il est 7h06. Les Républicains, minés par leur dissension interne, ont à nouveau échoué vendredi à abroger l'Obamacare, leur cheval de bataille depuis maintenant 7 ans, ce qui constitue un sérieux revers pour le président Donald Trump. Lors d'un vote tendu en pleine nuit, le Sénat a rejeté par 51 voix contre 49, une abrogation partielle de la couverture santé mise en place par le président Barack Obama en 2010. Le sénateur républicain John McCain, de retour au Sénat malgré le cancer dont il vient d'annoncer d'être atteint, a voté contre cette abrogation partielle, ainsi que 2 républicains modérés aux côtés des démocrates. La présence de 30 gens au sein des forces armées fait débat aux États-Unis. En dépit des tweets du président Donald Trump annonçant leur bannissement, le plus haut gradé de l'armée américaine affirme que pour l'heure, rien n'a changé. Morgan Guiriec.
Le général Joe Dunford, chef d'état-major interarmes, a envoyé un mémo à ses subordonnés pour leur demander de ne rien changer en attendant que le président Trump informe formellement le Pentagone et que le ministre de la Défense, Jim Mattis, publie de nouvelles directives. En attendant, nous allons continuer à traiter tous nos personnels avec respect, écrit le général des Marines. En raison des combats que nous menons et des défis auxquels nous devons faire face, nous allons rester concentrés sur l'accomplissement des missions qui nous ont été assignées, souligne le général, laissant entendre qu'il perçoit les tweets présidentiels comme une diversion. Les transgenres sont des personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance.
Hillary Clinton va publier le 12 septembre les mémoires de sa défaite à l'élection présidentielle qui vont s'intituler « Ce qui est arrivé », a annoncé hier son éditeur. Revenant sur son échec, Hillary Clinton évoquera le sexisme subi en tant que première femme candidate d'un grand parti américain, mais aussi une attaque sans précédent sur notre démocratie. Je cite, « un adversaire étranger », selon les documents publiés par la maison d'édition Simon & Schuster. Et puis, Pékin s'est dit hostile aux sanctions unilatérales votées la veille par le Sénat américain contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, assurant que la Chine s'opposerait résolument à toute mesure portant atteinte à ses intérêts. Le Sénat américain a adopté jeudi des sanctions pour punir la Russie de son ingérence présumée dans l'élection présidentielle, laissant désormais le soin au président Donald Trump d'embrasser ou non cette position dure envers Moscou. Ce texte qui a été dénoncé par Moscou, mais aussi critiqué par Bruxelles, parce qu'il va permettre de punir des entreprises européennes. Il sanctionne aussi, par ailleurs, l'Iran et la Corée du Nord. La Cour suprême du Pakistan a rendu aujourd'hui un arrêt prononçant la disqualification du premier ministre Nawaz Sharif et sa destitution de fait suite à une campagne et une affaire de corruption. M. Sharif n'aura ainsi mené à terme aucun de ses 3 mandats comme chef du gouvernement. Il avait déjà été contraint à la démission en raison d'accusations de corruption en 1993. Et puis le Venezuela, pour terminer, personne ne devrait être obligé de voter dimanche au Venezuela, estimé aujourd'hui le Haut Commissariat aux droits de l'homme, en référence à l'élection prévue dimanche d'une assemblée constituante contestée voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. Le Haut Commissariat s'est déclaré particulièrement inquiet par le fait que toutes les manifestations aient été interdites jusqu'au 1er août. L'agence de l'ONU a aussi demandé aux opposants à l'élection de rester pacifique. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera accompagné de Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.